Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Les œuvres d'art contenues dans les musées du Vatican témoignent du message de l'Évangile. L'Église, a affirmé le pape François, fait appel à l'art pour proclamer la splendeur de la création de Dieu et la dignité de l'homme créé à son image et ressemblance, compte rendu de son discours dès le début de ce magazine. L'Évangile pour tous, j'y crois, c'est le thème de la semaine missionnaire mondiale qui s'achève dimanche. Un thème optimiste et tourné vers l'action dans un monde en quête de sens. Vous entendrez une religieuse missionnaire en République démocratique du Congo. Dans ce magazine, nous parlerons également de Benoît XVI et de son successeur François, deux papes vus par Mgr Alfred Xuereb et par le correspondant de l'AFP à Rome. Et en fin d'émission, ne manquez pas notre rendez-vous hebdomadaire avec le commentaire de l'Évangile. Les musées du Vatican accueillent chaque année plus de 5 millions de visiteurs. Le directeur des musées, Antonio Paolucci, l'a affirmé en présence du pape François ce samedi, en fin de matinée. Le souverain pontife recevait une association internationale de mécènes, les Patrons of the Arts. L'anniversaire de la fondation de cette association est marqué jusqu'à dimanche par une série de manifestations organisées par les musées du Vatican. Hélène des Tombes.
Formée de catholiques américains et européens, cette association soutient depuis 30 ans, les opérations de restauration ou de mise en valeur du patrimoine artistique et des collections vaticanes. Le pape François a chaleureusement remercié ses mécènes, animés, selon lui, non seulement par un sens de co-responsabilité à l'égard de l'héritage d'art sacré de l'Église, mais aussi par le désir d'entretenir les idéaux spirituels et religieux qui sont à l'origine des collections pontificales. À toutes les époques, l'Église a fait appel à l'art pour exprimer la beauté de sa foi et pour proclamer le message évangélique, le pouvoir de la mort et de la résurrection du Christ qui a racheté le monde marqué par la tragédie du péché et de la mort. Avec leur histoire riche et unique, les musées du Vatican offrent aux innombrables pèlerins et visiteurs qui affluent vers Rome la possibilité de rencontrer ce message par le biais des œuvres d'art, ces œuvres qui témoignent des aspirations spirituelles de l'humanité, des mystères sublimes de la foi chrétienne et de la recherche de la beauté suprême qui trouve son origine et son accomplissement en Dieu.
Le substitut de la secrétaire d'État a envoyé au nom du Saint-Père un message aux députés italiens qui effectuent un pèlerinage à Londres sur les traces de Thomas More, emprisonné et exécuté en 1535 pour avoir désavoué le divorce du roi Henri VIII et refusé de cautionner l'autorité que s'était arrogé celui-ci en matière religieuse. Le chancelier anglais a été proclamé par Jean-Paul II saint patron des gouvernants et des politiques. Ce samedi, dans un geste écuménique important, les participants ont pu assister à une messe catholique célébrée en la cathédrale de Westminster, siège de l'Église anglicane. À l'occasion de la journée missionnaire mondiale célébrée ce dimanche 20 octobre, l'agence Vaticane Fides a publié quelques données extraites du dernier annuaire des statistiques de l'Église. En 2011, les catholiques représentaient 17,5% de la population mondiale, leur pourcentage étant en légère augmentation, notamment en Afrique. Le nombre de prêtres a également augmenté, sauf en Europe, où il enregistre une diminution consistante. Le nombre de catholiques par prêtre a donc augmenté, surtout sur le vieux continent. Le nombre des religieuses est en baisse, surtout en Europe, ainsi que celui des catéchistes, surtout en Amérique, alors que le nombre des diacres permanents est en hausse, surtout sur le continent américain. Dans les domaines de l'instruction et de l'éducation, les établissements catholiques accueillent plus de 63 millions d'élèves de la maternelle aux études supérieures. Et à l'occasion de cette journée, nous vous proposons le témoignage d'une missionnaire de Notre-Dame d'Afrique, sœur Alice. Elle est d'origine ghanéenne et elle vit depuis l'an 2000 à Kinshasa, où elle travaille à l'œuvre pour la réunification des enfants de la rue. Loin des conflits qui minent le nord-est de la RDC, Kinshasa, la capitale, concentre d'autres maux. Pauvreté, chômage, exclusion. De nombreux enfants sont livrés eux-mêmes dans les rues de la capitale congolaise. Au-delà de la pauvreté, les enfants sont souvent rejetés pour des questions culturelles, liées entre autres à l'explosion des sectes et de la sorcellerie. De passage à Rome, sœur Alice nous a livré son témoignage.
Une chose très grave pour moi, c'est les sectes. Cette croissance des sectes, des églises qui, qui pousse comme des champions. Et souvent, c'est le pasteur qui accuse facilement des enfants de la sorcellerie. Un pasteur qui passe sur une avenue tout à coup, oh, des enfants, ah, l'enfant là, je le vois, il est possédé, il faut le délivrer, tout ça. Et malheureusement, les parents se laissent faire par ces pasteurs-là. Un enfant qui a été accusé de la sorcellerie, soit par les pasteurs ou bien même les familles qui soupçonnent un enfant, il amène l'enfant dans l'église. Et cet enfant devait gêné par, parfois pour 2 jours, 3 jours. Et imaginez-vous un enfant de 3 ans, 4 ans, gêné, même un seul jour, est-ce qu'il va s'en sortir? À la fin, l'enfant fuit cette église-là. En plus, ce n'est pas seulement gêné, seulement, mais on les torture. Ils vont les torturer dans ces églises-là, les sectes. Oh, l'enfant, il fallait le délivrer et en le délivrant, l'enfant devait avouer d'abord, dire oui, moi je suis sorcier et j'ai fait ça. À cause de ça, beaucoup d'enfants se trouvent dans la rue.
Comment vous expliquez, sœur Alice, que les enfants soient autant la cible de ces gens-là?
Pour moi, c'est des enfants, bien sûr, ils sont des êtres humains faibles, ils ne pouvaient pas se défendre. Et il y a aussi l'aspect aussi des signes parfois, des signes pathologiques ou bien psychologiques que les enfants sont en train de vivre. Parfois, tu as la chance de le convaincre, oui, c'est une maladie, on peut soigner. Au lieu, par exemple, d'amener l'enfant chez un psychologue ou bien pour canceline et tout sa thérapie, eux, ils vont prendre ça comme un signe de la sorcellerie.
Concrètement, à leur père, dans votre ONG, quels sont vos chantiers prioritaires? Qu'est-ce que vous faites auprès de ces enfants?
Nous essayons d'utiliser plusieurs aspects pour aider ces enfants-là. Nous avons des centres, ce qu'on appelle les milieux ouverts, c'est-à-dire un lieu d'accueil. Quand l'enfant arrive, la première chose, c'est d'écouter. Nous avons des éducateurs sociales qui sont sur chaque centre pour les garçons et aussi pour les filles. Et en écoutant, on essaie de récolter les adresses, l'identité de l'enfant, ou les adresses des parents, soit parents restreints ou bien élargis. Avec ça, on essaie de demander à l'enfant, est-ce qu'on peut aller avec vous jusqu'à la famille, parler avec la famille? S'il accepte, on part avec. Donc, premier pas, c'est toujours comme ça. En menant l'enfant dans la famille, nous suivons. Nous faisons de temps en temps des suivis pour voir comment l'enfant s'intègre dans la famille. On regarde aussi la possibilité. Si c'est des cas économiques, parfois nous ciblons des familles pour aider l'enfant par l'école. On paye les frais scolaires pour l'enfant. Pendant un certain temps, on voit comment l'enfant évolue. Donc ça, c'est le cas où on arrive à remettre l'enfant en famille. Mais si on n'arrivait pas à remettre l'enfant en famille, nous avons l'alphabétisation sur place.
Sœur Alice, missionnaire de Notre-Dame d'Afrique en République démocratique du Congo, interrogée par Olivier Bonnel. Une victime de la dictature communiste hongroise a été béatifiée ce samedi matin à Budapest. Étienne Sándor, coadjuteur laïc salésien, a été exécuté en 1953 en pleine persécution contre l'Église catholique. La Hongrie traversait une période trouble sous l'emprise du communisme stalinien. Dès 1949, le régime avait confisqué les biens de l'Église jusqu'au matelas. La presse catholique avait été interdite, les associations catholiques dissoutes, les écoles catholiques fermées, les imprimeries réquisitionnées. Le clergé et les religieux étaient contraints de vivre dans la clandestinité. Beaucoup furent déportés dans des camps de travail. Malgré ces persécutions, Étienne Sándor continua secrètement à suivre les groupes de jeunes. En 1951, se sachant suspecté par la police, il changea de nom, de domicile et de travail tout en continuant son apostolat auprès des jeunes. Les Salésiens avaient préparé sa fuite, mais il choisit de rester. Il est arrêté en 1952, condamné à mort pour complot contre la démocratie et trahison. Durant son emprisonnement, ses compagnons survivants diront qu'il cherchait à redonner courage à tous et partager le peu de nourriture qu'il avait. Il est pendu le 8 juin 1953. Son corps sera jeté dans une fosse commune. Benoît XVI aimait réciter son chapelet dans les jardins du Vatican devant la grotte de Lourdes, raconte le secrétaire personnel du pape François. Monseigneur Alfred Xuereb a fait partie pendant 5 ans et demi du secrétariat de Benoît XVI et il avoue avoir été fasciné par la personnalité du pape émérite. À l'occasion de la présentation d'un recueil de textes de Joseph Ratzinger sur l'écologie humaine, Monseigneur Xuereb a raconté de nombreuses anecdotes sur Benoît XVI, certaines inédites. Jean-Baptiste Cocagne.
Benoît XVI aime la nature et les animaux, mais pas seulement les chats. Le secrétaire discret qui l'accompagnait dans les jardins du Vatican a décrit avec quel intérêt, par exemple, il a observé pendant plusieurs jours les habitudes d'un merle blanc.
Un merle bianco.
Le plaisir qu'il prenait à contempler les poissons rouges dans un bassin. Et puis, Mgr Xereb évoque également l'attachement émouvant du pape Benoît pour son frère Georg, sa gentillesse attentionnée à l'égard de son entourage. Mgr Xereb est d'un naturel discret, mais il s'est dit qu'en s'exprimant en public, il pouvait contribuer à révéler la véritable identité du pape Benoît, à corriger l'image qui a été donnée de lui. Mgr Xereb souffre quand il entend des jugements qui n'ont rien à voir avec la vraie nature du pape Benoît. C'est un homme extraordinaire, insiste-t-il, un homme d'une grande culture, un géant de profondeur et de lucidité intellectuelle, mais dans le même temps, il frappe ceux qui le côtoient par sa simplicité désarmante et sa sensibilité raffinée. Il sait établir des rapports naturels et francs sans jamais mettre son interlocuteur mal à l'aise. Au contraire, il l'aide à se sentir accueilli et apprécié, dit Mgr Xereb. Quant au pape François, Mgr Xereb dit l'aimer comme un fils aime son père. Et quand on lui demande s'il y a continuité ou pas entre Benoît XVI et François, Mgr Xereb est formel, il y a toujours des liens entre un pontificat et l'autre. Chaque pontificat est un chapitre d'une même histoire.
De Benoît XVI à François, les défis de l'Église, c'est le livre pour Dieu que nous vous proposons cette semaine. L'auteur de cet ouvrage, Jean-Louis de la Vessière, est le correspondant de l'agence France-Presse au Vatican. Dans ce livre publié aux éditions Le Passeur, il raconte et analyse les deux événements inédits qui ont marqué la vie de l'Église ces derniers mois. La renonciation de Benoît XVI et l'élection du premier pape jésuite et premier pape américain de l'histoire, un pape qui a vite séduit les médias. Le journaliste s'interroge sur l'impact que ce tournant peut avoir sur l'Église. Jean-Louis de la Vessière a accepté de répondre aux questions de Sœur Catherine Aubin.
Jean-Louis de la Vessière, le titre de votre dernier livre, De Benoît à François, une révolution tranquille. Est-ce que une des caractéristiques de votre livre est de nous montrer les perceptions différentes de Benoît XVI et du pape François ?
Effectivement, j'ai voulu décrire deux personnages réels, mais aussi les perceptions qu'on en a. Hélas, une perception très négative en France, en Occident, de la fin du pontificat de Benoît XVI, vu comme un pape réactionnaire, à l'écart du monde, ce qu'il n'était pas, et un enthousiasme débordant pour le pape François, dans lequel beaucoup d'Occidentaux ont tout de suite vu un pape progressiste, révolutionnaire, ce qu'il n'est sûrement pas non plus. Et donc j'ai voulu faire justice à ces deux personnes qui sont des personnes éminentes, qui ont d'ailleurs entre eux une continuité, montrer que les perceptions peuvent être un peu inexactes ou fausses ou marquées par les débats contemporains, par les scandales, mais que les personnes sont un peu différentes des perceptions.
Dans les points que vous avez fait émerger, il y a des caractéristiques, deux hommes fascinants mais différents.
J'ai été très touché par les catéchèses de Benoît XVI, par la limpidité de sa pensée, sa clarté, quelque chose comme un lac de montagne aux eaux transparentes par moments qui révèle Dieu. Et j'ai été, comme je le mets dans mon livre, très, très séduit aussi par la cascade, le torrent que constitue la parole accompagnée de gestes de François, très chaleureux, qui va vers les autres. Et je pense que beaucoup d'intuitions de Benoît ont été reprises par François sur la purification de l'Église, par exemple, la lutte contre la mondanité, la séparation entre sacré et profane, la miséricorde.
Dans le chapitre, dans la deuxième partie de votre livre consacré au pape François, vous insistez beaucoup sur le fait que le pape François met la miséricorde comme mot-clé de ses premiers mois de pontificat.
Oui, absolument. Je crois que la théologie de la miséricorde est au centre. C'est là où tout l'amour de Dieu est montré et manifesté. Et dans l'avion qui le ramenait du Brésil, le pape a dit « Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à une théologie du péché ? » Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Il a sans doute voulu dire que dans l'Église avait trop régné ce qu'il appelle le sacrement de la douane, un huitième sacrement qui aurait été créé faussement, qui juge les gens et les exclut trop facilement à partir de règles. Et il veut montrer que la miséricorde de Dieu est donnée toujours à tout le monde, tout le temps. Bien sûr, c'est un processus, l'homme doit la vouloir, mais donc c'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple loi avec des interdits, des condamnations. le pape François a décidé d'ouvrir en quelque sorte les bras du Christ.
Qu'est-ce que vous aimeriez que vos lecteurs découvrent à travers votre livre ?
J'aimerais qu'ils découvrent que derrière l'opacité et de temps en temps un aspect assez triste que peut avoir le Vatican, il y a des hommes passionnés de Dieu qui y travaillent. Benoît XVI était mal compris, mais c'était un homme passionné de Dieu, très délicat, d'un esprit très élevé, et François aussi. Il se trouve à la tête d'une institution absolument immense et très difficile à gérer. Bien sûr, ils peuvent faire des maladresses, ils peuvent faire des erreurs, mais ils sont absolument dédiés à leur tâche de montrer d'indiquer à l'homme qu'il y a une espérance extraordinaire.
Merci Jean-Louis de la Vessière.
Livre pour Dieu, une rubrique hebdomadaire réalisée par Catherine Aubin. Dernier volet de ce magazine, nous retrouvons le père Pascal Montavi pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche 20 octobre, le 29e du temps ordinaire. Et c'est l'évangile selon saint Luc, chapitre 18, versets 1 à 18. Jésus montre à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager.
L'enseignement de l'évangile de ce jour est simple. En une phrase, Luc résume le sens de la parabole que Jésus prononce. Il faut prier sans cesse et sans se décourager. Ainsi, par son insistance, une veuve obtient satisfaction de la part d'un juge qui ne respecte pas Dieu et se moque des hommes. Une lecture attentive permet d'approfondir le sens de cette parabole. Tout d'abord, c'est une veuve qui prie et qui demande à Dieu de lui rendre justice contre son adversaire. La veuve, tout comme l'étranger et l'orphelin, sont dans la Bible les trois situations sociales les plus précaires. C'est un devoir pour tout homme de les protéger, de ne pas profiter de leur situation de faiblesse. Or, un homme commet une injustice vis-à-vis de cette veuve. La prière de cette femme, Dieu l'entendra. Cette parabole nous rappelle donc que si Dieu est amour, il est aussi juste. Vient un temps où celui qui a abusé des autres sera abaissé et celui qui était floué sera élevé. C'est une affirmation forte et récurrente chez l'évangéliste Luc. On la retrouve, par exemple, dans la parabole du riche et de Lazare. C'est aussi dans ce sens que l'on peut comprendre la béatitude suivante dans l'évangile de Matthieu. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Ensuite, le raisonnement de Jésus pourrait surprendre. Pourquoi établir une comparaison entre un juge qui ne respecte pas Dieu et se moque des hommes, et Dieu lui-même ? Pour bien comprendre cet argument, il faut savoir reconnaître un outil de la rhétorique juive que l'on pourrait appeler la règle de la fortiori. Si une personne ou une réalité moindre peut faire quelque chose, combien plus pourra le faire une personne ou une réalité supérieure ? Mais l'argument va encore plus loin. Il est dit implicitement que Dieu est le contraire de ce juge qui se moque des hommes. Cette comparaison dit donc que Dieu prend soin des hommes, qu'il est attentif à leurs besoins. En fin de compte, que Dieu aime les hommes, et c'est pourquoi il leur rend justice. Enfin, Jésus conclut ce récit par une parole bien mystérieuse. « Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Cette parole semble dire qu'à la fin des temps, la foi ne se trouvera plus sur la terre. Mais tel n'est pas le sens véritable de ce verset. Rappelons-nous cette autre parole de Jésus aux apôtres. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Jésus met donc en garde ses disciples contre les épreuves et les tribulations qui ne manquent pas dans la vie de ceux qui suivent le Christ. Aujourd'hui encore, notre foi est mise à rude épreuve par un monde qui se proclame souvent autonome et indépendant vis-à-vis de Dieu. L'appel que nous adresse cet évangile est celui de la prière qui nous fait rencontrer le Seigneur dans l'intimité de notre cœur et qui nous fait nous exclamer à la suite de Pierre et devant Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » La prière et la foi vont ensemble. C'est par la prière que nous expérimentons que Dieu nous aime et qu'il nous donne la vie éternelle.
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Mais n'oubliez pas de nous rejoindre également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français. Bon dimanche à tous.